Alors, depuis près de 2 siècles, on voit que toutes les innovations scientifiques apparaissent petit à petit dans notre vie, du premier souffle jusqu'au dernier. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui avait amené à un essor aussi considérable des sciences dans notre quotidien? Et en voyant le sujet, je me suis dit, peut-être que l'art a une part de, a sa part à prendre, en fait, ou une part de, je ne sais pas si on peut dire responsabilité, mais en tout cas, sa part dans le développement des sciences. Depuis quelques décennies, on voit fleurir dans l'art sous différentes formes. Alors les robots, la conquête spatiale, on voit des sujets aussi comme les manipulations génétiques. Tous ces sujets-là représentent des thèmes scientifiques avant-gardistes et leur propriété, c'est qu'en général, ils abordent ces sujets avant même qu'ils ne soient présents dans les laboratoires. Alors certains ont imaginé très tôt l'homme augmenté, par exemple, comme Léonard de Vinci, qui a déjà à son époque rêvait d'un homme au-delà de ce qu'il était naturellement, en utilisant la technologie, la mécanique, et en rêvant de le faire voler. L'apparition des thèmes scientifiques et avant-gardistes dans le cinéma ont engendré très tôt, ils ont eu un tel impact qu'ils ont engendré un nouveau domaine qu'on appelait la science-fiction. Donc dans la littérature, je vais vous parler en prenant des... Puisque le terme science-fiction est assez ancien, il date de 1851. Et en fait, je vais me servir d'exemples littéraires que j'ai pris et d'exemples de quelques films aussi pour illustrer le propos. Alors il y a deux pères qui sont considérés comme incontournables au niveau science-fiction. C'est Jules Verne et Herbert George Wells. Alors dans le cas de Jules Verne, dans des romans comme « De la Terre à la Lune » ou « 20 milieux sous les mers », l'auteur décrit tout un univers de conquête de l'espace, mais pas que l'espace extraplanétaire, l'espace sous-marin, l'espace en général, avec des formes de technologie qui n'existaient pas à l'époque. L'homme rêvait de conquérir ces espaces, mais ce n'était pas encore le cas. Donc il y a toute une vision visionnaire d'une forme de futur. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ce cas-là, la littérature a été précurseur de quelque chose qui s'est passé beaucoup plus tard. Avec Herbert George Wells, on a aussi une certaine vision des sciences, puisque lui n'explore pas l'espace, il explore la matière, le temps et son idée de présence de vie à l'extérieur, extraplanétaire. Il est aussi innovateur puisque à cette époque-là, c'est quelque chose. La conquête de l'espace, les voyages sur la Lune n'existaient pas. L'homme invisible, la matière, on avait très peu d'idées de ce dont il s'agissait. La machine à explorer le temps, c'était quand même aussi des idées assez novateurs. Et les hommes continuent à rêver. D'ailleurs, c'est pas entièrement réalisé actuellement tous ces sujets. Un autre auteur incontournable, Aldous Huxley, qui lui, en 1932, avec le meilleur des mondes, proposait une vision des mondes avec des enfants qui ne seraient plus conçus naturellement, mais qui seraient des enfants conçus dans des éprouvettes. 50 ans plus tard, on a l'apparition, en 1982, si je ne me trompe pas, du premier, entre guillemets, bébé éprouvette, avec la naissance en France, par exemple, d'Amandine, qui est issue d'une fécondation in vitro. Donc, on voit avec ces exemples que la littérature d'anticipation, de science-fiction, anticipe des choses qui vont se produire plus tard dans le monde scientifique. Donc j'y ai vu comme une passerelle entre justement le monde artistique littéraire et les sciences. À chaque fois, nous sommes transportés donc dans un monde imaginaire, truffé de technologies qui n'existent pas, truffé d'inventions, de façons de vivre qui n'existent pas, qui sont peu à peu apparu dans le présent. C'est une source incroyable de promotion scientifique, puisqu'il y a une forme de promotion dans la façon dont ils présentent leurs inventions dans les livres, mais c'est aussi une source inconsciente d'inspiration pour les scientifiques. En effet, je pense qu'il y a toute une génération de scientifiques qui, étant petits, avaient comme livre de chevet des romans de Jules Verne ou des romans de Wells. Alors maintenant, je vais vous parler un peu du 7e art, en retenant... Alors, j'ai choisi volontairement 4 films qui sont assez récents, puisqu'ils sont de 2001, 1997, 2005, enfin, c'est des films récents. Les deux premiers, alors, il s'agit d'Intelligence artificielle de Spielberg et Blade Runner de Ridley Scott. Alors pour resituer ces films, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Blade Runner, c'est un film qui s'inspire d'un scénario, qui s'inspire d'un livre, d'une nouvelle de Philip K. Dick. Ils mettent en scène des androïdes, et ces androïdes sont une nouvelle race qui ressemble extrêmement aux humains, et ces androïdes sont utilisés comme une nouvelle race d'esclaves dans des colonies de minerais. Et une partie de ces androïdes se révolte contre cette condition. Dans Intelligence artificielle, là, on se trouve dans un futur où l'homme est en contact avec les robots humanoïdes et qui servent à l'aider au quotidien. Et un professeur a l'idée de créer un humanoïde enfant afin qu'il soit doué d'émotions, afin de l'offrir à des, enfin, afin de le donner à des couples qui veulent un enfant. Et cet enfant, appelé David, se trouve à un moment donné rejeté par sa famille adoptive et donc commence un long voyage où il est à la recherche de son identité et veut devenir un vrai petit garçon. Il y a un parallèle avec la fable de Pinocchio, en fait, qui est reprise ici par Spielberg, où en fait l'humanoïde recherche sa part d'humanité et veut se faire reconnaître en tant qu'être humain et non plus en tant que robot. Dans les deux autres films, Bienvenue à Gattaca et The Island, pareil, des films récents, assez récents, puisque Bienvenue à Gattaca, c'est de 1997 et The Island, 2005. Donc pareil, pour resituer, Bienvenue à Gattaca, c'est dans un futur proche. Les enfants naissent de façon contrôlée, c'est-à-dire qu'ils sont conçus génétiquement pour être parfaits. Et le héros de l'histoire, lui, un accident de la nature, en fait, il a été conçu naturellement. Et avec un petit souci, il a une petite insuffisance cardiaque, ce qui ne lui permet pas d'avoir un poste important dans la société. Tous les enfants conçus naturellement n'ont plus le droit à des postes, ils ont le droit qu'à des postes subalternes dans cette société. Et donc, lui aussi se révolte sur cette condition qu'il trouve injuste. The Island, c'est une communauté qui vit sous terre suite à une catastrophe écologique et qui n'attend qu'une chose, c'est un tirage au sort qui leur permette de rejoindre une île qui a été épargnée par cette catastrophe écologique. Et en fait, on se rend compte petit à petit que c'est un grand mensonge, puisque ces êtres qui vivent sous terre, effectivement, petit à petit, disparaissent puisqu'ils partent pour cette soi-disant île. Et en fait, ce sont des clones, tous. Des clones qui ont été conçus par des savants, mais des clones qui ont comme unique but de servir de pièces détachées pour une humanité qui existe vraiment sur Terre. De riches propriétaires de ces clones qui, lorsqu'ils ont un problème, par exemple un foie malade, vont récupérer chez le clone le foie qui n'est plus en bon état. Donc, ce que je voulais vous montrer avec tous ces films, c'est qu'à chaque fois, il y a une foule de gadgets technologiques, mais il n'y a pas seulement que ça. Il y a des technologies appliquées au vivant, à chaque fois, des manipulations des génétiques, du clonage. Il y a des techniques pour imiter le vivant avec la robotique. Et ce qui est surprenant, c'est que toutes ces technologies, dans ces films, n'existent pas. Soit sont à l'état d'embryonnaire dans les laboratoires de recherche, mais en tout cas ne sont pas encore ni commercialisés ni offerts entre guillemets à la société. Donc ils agissent un peu comme des précurseurs dans le domaine. On a un peu une impression qu'ils agissent comme des précurseurs dans le domaine scientifique ou comme des catalyseurs au niveau de l'innovation scientifique. D'un point de vue autre que technologique, ce qui est mis en avant dans ces films, c'est à la fois tout le côté avant-gardiste de la science, d'une potentielle science possible, mais également les conséquences de cette science, puisque à chaque fois, il y a une sorte de fascination pour ce qui se déroule dans ces films et une sorte de mise en garde, puisqu'on se retrouve à chaque fois avec des révoltes. Toutes les créatures créées par ces scientifiques finissent par se révolter et vouloir obtenir le même statut que l'être humain, ou veulent devenir humain. Alors maintenant, je vais revenir à cette affiche. Alors, ce qui m'a surpris quand je l'ai vue et qui m'a un peu énervée, c'est que déjà, le slogan « Venez rencontrer ceux qui pensent le futur », je trouvais ça tout à fait normal, c'est la Foire de Paris, il présente des innovations. Jusque-là, il n'y a rien de très particulier. Par contre, que ce futur soit présenté par un robot humanoïde, déjà, je trouvais ça plus gênant. Que ce robot humanoïde et la posture du penseur de Rodin était encore plus troublante. C'est comme pendant des siècles, on a mis en valeur l'être humain au travers des écrits, des peintures. L'être humain était magnifié dans la beauté au niveau corporel, de ses actions héroïques. Et d'un seul coup, c'est comme si ça n'avait plus suffi. En fait, que l'homme, l'être humain en soi n'était plus un modèle de référence. En 1886, dans la littérature, on voit pour la première fois apparaître le terme d'androïde avec Ève Future. C'est un roman d'Auguste Villiers de L'Isle-Adam. Et c'est la première fois, c'était une critique en fait à l'époque, pas de la technologie, c'était plutôt une critique de l'humain, mais pour faire cette critique de l'humain, il a mis en scène un humanoïde. Donc la promotion scientifique sous toutes ses formes, au lieu d'utiliser les potentialités intrinsèques de l'être humain, va de plus en plus mettre en avant la technologie appliquée à la matière vivante ou à la matière inerte avec l'intelligence artificielle. Pardon. Appliquée à la matière vivante, ça donne une nouvelle forme d'art. Le bio-art. Vous avez vu cette photographie hier déjà. C'est considéré comme du bio-art. Et en fait, ça représente une cellule, un virus infectant une cellule humaine et, par une technique qui s'appelle l'immunofluorescence pour faire les différences de couleurs, les contrastes. Alors, en rose, en bleu, vous avez l'ADN. En rose, les protéines virales qui sont en train d'infecter la cellule. Donc, avant, on aurait pu dire que c'était de l'imagerie scientifique. Ça a basculé pour être transformé, actuellement considéré par certains comme du bio-art. Le bio-art, c'est un courant artistique qui a émergé il y a une trentaine d'années, dans les années 80. Et les artistes de ce courant ont remplacé les pinceaux par les nouvelles technologies et les biotechnologies, et ils ne sont plus en atelier, mais dans les laboratoires. Alors, je vais vous lire la définition du bio-art. C'est considéré comme une nouvelle direction de l'art contemporain, qui manipulent les processus de la vie. Et les bio-œuvres, donc le résultat de ça, les bio-œuvres, sont le résultat soit de collaborations entre des artistes et des scientifiques, soit des artistes entre eux. Alors, pour illustrer le bio-art, j'ai pris deux artistes. Voilà, l'artiste dont je voulais vous parler, c'est Sonia Baumel. Alors, Sonia Baumel a des connaissances en bactériologie, et elle utilise son propre corps pour faire des œuvres. C'est-à-dire toute la surface de sa peau devient le matériel pour faire l'œuvre d'art. Elle a utilisé un milieu qui est une sorte de gélose qu'on utilise pour faire de la bactériologie. Et elle a posé son corps sur cette gélose de façon à ce que tous les micro-organismes qui se trouvent sur la surface de sa peau, au contact de cette gélose, soient imprégnés et puissent être cultivés comme une culture de bactéries classique en laboratoire il y a quelques années. Ce qui donne, vous voyez sur la partie bleue, une empreinte de son corps qui représente toute la surface toute la surface de son corps, enfin tous les micro-organismes qui ont pu se développer, qui étaient à la surface de son corps. Et l'objectif de l'artiste était de rendre visible ce qui est invisible à l'œil nu. Et elle a réussi ainsi à faire une immense boîte de pétri avec l'image de son corps, version micro-organisme. Autre artiste, vous avez vu aussi dans le diaporama qui a défilé hier, ce fameux lapin. Alors, Eduardo Carque, pardon, est un Brésilien qui a travaillé en collaboration avec un grand laboratoire d'État pour réaliser ce qu'il appelle cette œuvre transgénique. Lui, il ne parle pas de bio-œuvre, il appelle ça une œuvre transgénique. En fait, il s'agit d'un lapin auquel on a auquel ils ont intégré un gène de méduse. La particularité, après cette intégration, donc cette manipulation génétique, c'est d'obtenir un lapin, donc transgénique, puisqu'il y a un gène qui vient du monde, enfin de la méduse, et intégré au gène du lapin, mais qui est fluorescent, qui devient fluorescent, donc la particularité de la méduse, fluorescent sous ultraviolet. Cet artiste, d'ailleurs, était très satisfait de ce qu'il avait fait, voulait même faire des chiens, à la suite, des chiens transgéniques, fluorescents. Voilà. Alors, évidemment, il est très controversé. Et ces bio-œuvres posent de nombreuses questions d'éthique et de responsabilité. Alors, avec les bio-arts, on voit qu'il y a une autre frontière de franchie entre l'art et la science. Alors, au début, les deux semblaient avoir leur parcours assez distinct, même s'il y avait des passerelles, on l'a vu avec la science-fiction. Là, il y a comme une fusion entre l'art et la science. On ne sait plus où commence l'art, ni où commence la science, puisque ça se passe dans des laboratoires, et même de grands laboratoires d'État, qui font vraiment de la recherche. Alors certains disent, des bio-artistes, certains disent vouloir questionner la société par ce moyen. D'autres semblent exorciser des peurs, les peurs des sciences. On constate quand même que c'est un formidable outil de promotion à chaque fois, de promotion scientifique. C'est aussi un formidable champ d'exploration scientifique sous le couvert de l'art. Parce que ces manipulations génétiques pour obtenir ce lapin transgénique et fluorescent auraient eu sûrement quelques difficultés à être acceptées dans les laboratoires, des laboratoires scientifiques comme sujet d'étude autrement. Donc on voit qu'avec la science-fiction, aussi bien qu'avec le 7e art, on pouvait s'interroger sur l'influence de ces domaines scientifiques. Mais on n'avait pas, au départ, on ne parlait pas de notion de responsabilité ou d'éthique avec ce qui se faisait auparavant. Là, avec ce domaine-là, on passe dans une autre dimension, puisque là, on a le côté responsabilité, le côté éthique qui est clairement posé. Donc pour conclure, l'art comme outil de promotion scientifique, ça pouvait sembler ridicule, tant les deux domaines au départ étaient aux antipodes l'un de l'autre. Mais avec ce nouvel éclairage que représente entre autres le bio-art, on peut voir une fusion entre les deux domaines. Et on peut aussi se poser la question de quel est le domaine qui sert à promouvoir l'autre. Merci.